Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être ce que fait un pasteur protestant, évangélique, baptiste dans une cérémonie catholique. Est-ce qu'on peut ainsi mélanger les styles, les spiritualités, les religions? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire bonjour très poliment et très cordialement et rester chacun chez soi? Tout d'abord, si je suis ici, c'est parce que Luc et Marion l'ont voulu. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation, qui nous ont rassemblés malgré nos différences. Mais surtout, je ne crois pas qu'il s'agisse de religions différentes. Je ne sais pas pour les catholiques, mais de toute façon, les évangéliques n'aiment pas trop parler de religion. Nous préférons parler de foi. La foi, c'est ce qu'on croit. C'est ce en quoi on met sa confiance, ce sur quoi on construit sa vie. Et concernant la foi, il y a bien des choses qui nous rassemblent. Nous avons lu ce texte dans Éphésiens, ce texte qui parle de l'unité. Je relis trois versets. « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. » Dans ce passage, Paul liste beaucoup de choses qui devraient nous rassembler. Et on peut les lister. Un seul Dieu, tout d'abord. Un seul Dieu, nous sommes bien d'accord. Un seul Dieu qui a créé toutes choses, qui a envoyé Jésus-Christ pour réconcilier l'homme avec lui. Un seul Seigneur. Ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui revendique ce titre. Jésus-Christ à qui ceux qui le suivent veulent se soumettre. Il y a une seule espérance. La vie éternelle qui est donnée à ceux qui se confient en Jésus-Christ. Un seul Esprit, le Saint-Esprit, donné aux croyants pour les aider à devenir saints. Et voilà la seule foi, celle qui rassemble ceux qui croient en Jésus-Christ. La seule foi, cette conviction sur laquelle le chrétien construit sa vie. Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ pour réconcilier l'homme avec lui. Et ainsi, celui qui met sa foi en lui est destiné à la vie éternelle et à vivre par son esprit dès aujourd'hui. Alors, s'il y a des choses qui rassemblent, il y a aussi des choses qui sont plus difficiles. Des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Quand Paul parle d'un seul corps, il parle de l'Église, le corps du Christ. Et sur l'Église, eh bien, la théologie catholique a une vision plus exclusive de l'Église. Mais c'est comme le baptême pour lequel les baptistes sont connus pour avoir une idée bien précise et exclusive également de la façon dont les choses devraient se faire. Mais je ne suis pas là pour faire une conférence sur les différences entre catholiques et évangéliques. Je veux juste souligner que ces différences sont là. Elles nous limitent dans notre communion, mais elles n'empêchent pas notre communion. Il est important de les reconnaître. On n'est pas là pour jouer à faire semblant que tout va bien. Mais si nous avons... Mais s'il y a un seul Père, Père de tous, au-dessus de tous, par tous, en tous, alors nous devons tous nous soumettre à lui. Essayer de vivre l'unité, comme Paul l'écrit au verset 3. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. L'accueil qui m'est fait ce matin va dans le sens de cette unité. Et je suis heureux d'avoir l'occasion d'honorer Jésus-Christ en y répondant favorablement, tout en restant profondément évangélique. Mais alors, que penser de ce mariage? Un jeune évangélique et une jeune catholique, s'il y a de telles différences, n'est-ce pas risqué? J'ai refusé plutôt de parler de différence de religion. Nous parlons bien de la même foi en Jésus-Christ. Je crois qu'il est une bonne chose pour un croyant de choisir comme conjoint un croyant. Ce n'est pas une garantie de succès. Passer outre n'est pas condamné à l'échec. Mais il est difficile de s'accorder avec quelqu'un qui n'a pas la même priorité, le même projet. Le pasteur Richard Gelin le dit mieux que moi, être disciple de Jésus-Christ, c'est librement accepter et même désirer qu'une instance plus grande que soi, l'Évangile, exerce son autorité sur soi. C'est reconnaître cette autorité comme sagesse profonde, essentielle. Cette dimension de la vie, le non-croyant aura toujours du mal à en accepter la richesse. Mais ce n'est pas votre cas, Luc et Marion. Vous partagez la même foi en Jésus-Christ. On parlera plutôt de différences, de différentes traditions chrétiennes. Le terme est joli, mais il ne doit pas faire oublier les difficultés, les vraies différences que vous avez. Elles ne sont pas toujours faciles à vivre, nous en avons parlé au cours de la préparation au mariage. En particulier, comment s'investir dans une communauté quand ce n'est pas la même? Comment faire avec les enfants? Tout cela, ce seront des questions difficiles que vous aurez à traiter pendant vos années de mariage. Mais j'aimerais citer encore une fois Richard Gelin qui dit « Quand vous vivez l'un et l'autre une fois actifs dans deux traditions chrétiennes différentes, de belles discussions sont probables, mais une belle expérience est possible. » Appartenir à une tradition chrétienne, c'est maîtriser, souvent sans en avoir conscience, un langage dans lequel les mots, les gestes ont une signification particulière. C'est avoir l'habitude que l'Évangile soit exprimé d'une certaine manière. Unir sa vie à quelqu'un d'une autre tradition chrétienne, c'est s'engager réciproquement à apprendre une autre langue. Une autre langue que la sienne, non seulement à l'apprendre, mais aussi à en apprécier la richesse, car il y en a toujours, et découvrir une autre culture de la foi, parfois jusqu'à l'aimer. Face à vos différences, face aux questions que vous aurez à aborder, ne cherchez pas à les éviter. Regardez-les sérieusement. Elles peuvent vous enrichir. Reconnaissez qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que vous. Dieu. Père de tous, au-dessus de tous, par tous, en tous. Avec humilité, Travaillez alors à vous comprendre pour découvrir comment ces différences vont vous enrichir. Je parle là de différences de tradition chrétienne, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. Celle qui saute aux yeux, celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde voit. Mais les différences les plus importantes sont certainement les autres, celles qu'on ne voit pas. Pour certaines, elles sont connues, vous les avez vues, et les proches qui vous connaissent bien connaissent certains de vos traits de caractère qui, mis ensemble, font des étincelles. Mais il y a encore certaines différences à découvrir. Quand on se marie, on n'imagine pas tout ce à quoi on s'attend. Certains peuvent être du matin, d'autres du soir. Comment faire pour se retrouver? Comment est-ce que chacun gère les inquiétudes en parlant ou au contraire en s'isolant? Comment est-ce qu'on se ressource quand les choses vont moins bien? Tout ceci, ce sont des différences que vous allez pouvoir voir en vivant ensemble. Alors dit comme ça, ça ne fait pas très vendeur, je crois. Mais après tout, ce n'est pas moi qui vous ai demandé de venir, c'est plutôt vous qui m'avez amené ici. Plus sérieusement, je dirais que pour toutes ces différences, il faut les identifier, les comprendre et les surmonter. Il y a un fonctionnement à trouver, avec patience, mais surtout il y a une opportunité pour chacun d'entre vous et pour votre couple de grandir. Marié depuis bientôt 15 ans, j'aimerais partager tout le plaisir que c'est de réussir à vivre ensemble jour après jour, de surmonter les difficultés que nous pouvons avoir l'un avec l'autre, de devenir plus fort à deux, grâce à l'accord ainsi construit, et de réussir à faire des choses que nous n'aurions pas réussi seuls. Et ce défi, on le relève avec un autre qu'on a choisi, qu'on aime, qu'on préfère. Car si vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes choisi, parce que vous vous aimez, parce que vous vous êtes préféré. Quelle aventure! Alors que faire des différences qu'on trouve dans un couple? Je crois que ce texte d'Éphésiens 4, qui invite à vivre l'unité chrétienne, peut aussi vous inspirer. Selon ce que Paul conseille, faites passer votre intérêt personnel derrière un intérêt plus grand. Considérez votre mariage, votre union, comme plus important que votre intérêt personnel. Faites-le passer avant vous. Je ne vous dis pas de faire passer l'autre avant vous, mais bien votre mariage, votre couple, votre intérêt commun avant votre intérêt individuel. La différence est importante. L'intérêt commun contient désormais votre intérêt personnel. Et loin de vous perdre dans votre mariage, de perdre votre liberté ou votre identité. Au contraire, vous gagnez de la richesse et en travaillant à votre mariage, vous travaillez pour vous. Et puis, dans cette aventure du mariage, vous bénéficiez d'une aide précieuse. Vous avez choisi dans les lectures bibliques le texte de l'évangile de Jean où Jésus prie pour l'unité de ses disciples, non seulement ce qu'il avait sur terre, mais ce à venir dont nous sommes. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » Nous sommes d'accord. Jésus prie bien pour les croyants à venir, dont nous sommes, pour que nous soyons unis. Il ne prie pas spécifiquement pour les couples mariés. Mais un peu quand même. S'il souhaite et prie pour que les croyants soient unis les uns aux autres, à combien plus forte raison va-t-il souhaiter et prier pour que ceux qui veulent être les plus proches soient également unis? Si tout homme est mon prochain, alors celui avec qui je partage ma vie tous les jours est mon premier prochain. Celui qui est le plus proche de moi, celui envers lequel j'ai mes premières obligations. Si Jésus est à côté des croyants pour les maintenir dans l'unité, il est aussi à vos côtés pour fortifier votre mariage, pour faire en sorte qu'il soit fécond, qu'il porte du fruit, et que, comme Jésus l'a prié, le monde reconnaisse en vous voyant que vous êtes ses enfants. Nous avons chanté plusieurs fois ce refrain. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. On en revient toujours au même. Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Vous avez choisi de le suivre et vous avez bien fait. Continuez. Continuez à le mettre à la première place, à rechercher sa volonté pour chacun d'entre vous, comme pour votre couple. Et continuez à mettre cette volonté en pratique. Luc, Marion, le défi que vous vous lancez est grand. C'est une aventure belle, pas toujours facile, nécessitant un travail attentif et constant, mais source d'une très grande joie pour vos vies. Dans cette aventure, Dieu vous offre son aide. Mettez-le à la première place et laissez-vous guider vers l'unité qu'il souhaite pour ses enfants. Amen.